Mais Don Salluste, nos gens sont terriblement pauvres et...
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
Libre Radio, la radio des riches, très riches. Pour vous, les pauvres, très pauvres. www.libradio.org.
Libre Radio en vadrouille ce vendredi 3 février 2017. Dans le cadre des réunions du Lissignol 8 à Genève, Reto Kadosh, initiateur des jardins de Cocagne et de Tournerève, présente le projet de supermarché participatif paysan, projet d'utopie concrète situé dans l'éco-quartier des Vergers à Mérin. Première partie de 25 minutes de présentation suivie de la seconde de 50 minutes. Question-réponse avec la salle.
Je vais vous parler d'une démarche pour un supermarché paysan ou participatif paysan qu'on veut faire à Mérin. Donc une utopie, mais qui se construit quand même dans un quartier bien réel.
Le système alimentaire, à part qu'il est basé sur une exploitation extrême, comme on a vu, il utilise une des ressources énormes. Aujourd'hui, on verra après quelques chiffres. Il est coincé, il est lié à un système de pollution, à une pollution très importante. Il est lié à des maladies chroniques aujourd'hui et permanentes qu'il provoque. Et en plus, il provoque un réchauffement climatique, disons, qui est quand même plus ou moins reconnu aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus grand monde qui croit que ça ne va pas se passer. Et le système alimentaire, il est complètement lié là-dedans. Il n'est pas dépendant de un de ces facteurs, mais il est lié complètement et impliqué dans le tout. Alors, juste quelques chiffres sur l'utilisation de l'énergie de ce système alimentaire dans lequel on est prisonnier. Hein, on a, si en 1940, un paysan produisait avec une calorie 2,3, aujourd'hui aux États-Unis, on a besoin 7 calories. Non, on a besoin, oui, 7 calories pour produire une. Donc, c'est une utilisation énorme d'énergie. Évidemment, une personne est très productive parce qu'il cultive énormément de surface. Mais globalement, au niveau énergétique, c'est une aberrance absolue. Mais je suis désolé que ça avance pas là. Ah, voilà. Dans ce même pays, donc aux États-Unis, il faut 1500 litres de pétrole pour nourrir une personne. Donc là-dedans, il compte évidemment tous les transports, tout. Hein. C'est vraiment le système alimentaire. Ça veut dire 4 litres par personne. En Angleterre, on est à 2 litres par personne. Ça veut dire cette fameuse phrase qui m'a quand même beaucoup choqué quand je l'ai lue. C'est qu'un homme qui travaille dans un puits de pétrole, il fait en fait plus qu'un paysan pour votre alimentation. On a besoin de 2 litres aujourd'hui pour simplement vous amener la nourriture dans votre assiette. Les kilomètres parcourus, hein, aussi des aliments, il y a des analyses en Angleterre. En 10 ans, ils ont été multipliés x 10. Donc, et tout ça, c'est lié parce que simplement aujourd'hui, vous avez vu un petit bout dans le film, mais aujourd'hui, toute l'alimentation, à peu près 80% de la production qu'on connaît, c'est plus du tout frais, ça passe quelque part par des cheminements qui font que tout est imbriqué. Et ça fait une utilisation d'énergie et de cheminement qui est énorme. Donc aujourd'hui, ça c'est un peu le système aussi paradoxe, et très pourquoi ce système est très vulnérable, c'est qu'en 3-4 jours, on n'a plus rien à manger dans une ville comme Paris ou l'Angleterre s'il n'y a plus de transport. Donc le pétrole, il augmente, et c'est complètement lié. Les ressources naturelles qu'on a besoin pour ce système alimentaire, il est énorme, quoi. C'est déjà les engrais, c'est NPK, dans l'azote, on doit produire avec l'énergie. Le phosphore, les ressources, ils sont très limités aujourd'hui. Ils diminuent quand même l'eau potable. On a à peu près en 100 ans, on a encore en 2050, on a 25% de l'eau potable disponible par rapport à 1950. Donc en 100 ans, ça a diminué très fort. Il y a 80% des gens sur la planète qui sont dans des situations où l'eau est plus du tout abondante. Et en plus, c'est lié à une perte énorme de tout ce système alimentaire, parce que après les estimations de la FAO, il y a à peu près 30% de l'alimentation qui sont perdues. À peu près 50% dans les pays de production, 50% dans le cheminement après jusqu'à chez nous et dans les ménages eux-mêmes. Donc, si on voit tout ça, on se dit, mais voilà, ici on voit l'exploitation qu'on a vue avant, on se dit, mieux vaut se mettre en route pour aller en transition vers des systèmes plus résilients. Donc, c'est là où on est quelque part, c'est sur la base de ces observations qu'est née l'utopie qu'on doit créer aujourd'hui. Donc, c'est important de voir pourquoi elle est vulnérable, hein, ce système alimentaire. Le premier facteur, c'est sa complexité, parce que c'est des réseaux qui sont complètement impipés, plus personne ne peut vraiment contrôler qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est très difficile de prévenir des crises alimentaires. Après, toutes les économies mondiales dépendent de ce prix du prix. Non, on est encore avant. Hein? Donc, dès qu'il y a une crise de pétrole, il y a le prix qui monte, ça fait des crises alimentaires. 2008, c'était la dernière, mais c'est, si on fait des courbes de ces prix, c'est vraiment directement lié. En plus, c'est sûr que toutes ces choses sont liées. Ben, ça ne suffit pas de remplacer le pétrole par d'autres énergies, parce que si on produit plus en même temps, ben, ça fait la pollution ailleurs. Et il faut vraiment que, si on crée des nouveaux systèmes alimentaires, il faut qu'ils travaillent sur tous les systèmes qui les concernent en même temps. Pour entrer en transition, ben, l'heure prochaine, c'est un peu les cinq conditions de base. Le premier, c'est se mettre ensemble, citoyens, producteurs et transformateurs, dont l'essentiel, c'est qu'on met de nouveau la contrôle sur notre alimentation, donc aussi sur les supermarchés ou sur les filières alimentaires. Ce qui est important, peut-être qu'il faut ajouter ici, c'est si on voit comment toutes les filières sont impliquées, ça veut dire qu'aujourd'hui, le paysan souvent le comprend mal, c'est que le petit paysan, il est quelque part un maillon dans tout le système alimentaire. Ce n'est pas parce qu'on est un petit paysan qu'on ne fait pas partie de l'industrie. Hein, les méthodes de production aujourd'hui, ils vont jusqu'au petit paysan qui, lui, finalement, il livre un produit qu'il ne maîtrise pas. Il sème ce qu'on lui achète et il y a très peu d'acheteurs. Si je prends les céréales, les variétés de céréales, vous ne pouvez pas, comme paysan, semer ce que vous voulez. Vous avez le droit, mais il n'y a personne qui va vous acheter 4 tonnes et à 1 hectare, ça fait 4 tonnes. Donc, c'est important que quelque part que vous liez au système comme il est proposé. Ceux qui achètent, c'est ceux qui font les recherches pareil, ils font les recherches pour les pains industriels, donc ils sélectionnent des céréales qui sont valables pour le pain industriel. Donc quelque part tout ce système est lié, c'est très difficile de sortir si vous n'avez pas en même temps le moulin, le boulanger, le consommateur et le paysan ensemble. On ne peut pas simplement sortir un maillon. Et ça, aujourd'hui, c'est très difficile de voir jusqu'où elle va, cette industrialisation, ou jusqu'où on est coincé avec ce système. Si on regarde les semences et tout, il y a presque 100% de nos semences de légumes, ils viennent des grosses boîtes. Pour les céréales, c'est un peu mieux, mais on est complètement impliqué dans un système où le paysan tout seul, il a de la peine à s'en sortir, ou de faire autre chose s'il n'est pas justement en lien avec des partenaires avec qui il peut se libérer. Le but qu'on a, donc ce qu'on s'est imaginé, ou c'est un peu le fond de la démarche du supermarché participatif paysan, c'est un peu ce choix, hein, de dire, une, on produit la nourriture et pas des aliments, parce que, bon, on nomme un peu les aliments, ce qu'on livre à une boîte où on ne sait pas très bien ce qui va se passer après. Donc, on aimerait vraiment faire une nourriture pour les citoyens, régler avec des échanges très près. Il y a les artisans dans le premier cercle. Après, il y a autour, il y a des prix rémunérateurs, il y a l'environnement qui est respecté, il y a une diversité. Il y a des agriculteurs qui sont plus seulement des entrepreneurs qui doivent survivre d'une manière financière, donc produire en fonction des plans de financement de leur propre situation, mais en fonction d'un besoin des gens qui veulent se nourrir. Donc des petites fermes et puis de redéfinir un peu le rôle du paysan dans notre société et la taille de sa production. On continue. Voilà, maintenant Mérin. C'est un peu... Tout ça, ça a poussé un peu l'idée de faire quelque chose sur ce secteur. Ça passait parce qu'à Meyrin, on était dans une situation très spéciale qui avait la commune qui achetait la moitié de la surface des vergers, donc ce nouveau quartier, ou plutôt elle a gardé les terrains. Elle les a mis à disposition, a donné des droits de superficie à des coopératives d'habitation. Donc on a 500 appartements qui sont construits par des coopératives et en tout c'est un quartier avec 1300 habitants. C'est un éco-quartier et ça a donné une dynamique où on pouvait amener des idées qui concernent un peu le quartier. C'était en fait ça parce que tous les coopératives étaient très ouverts ou très preneurs des idées qui concernaient l'alimentation. Nous, on a amené le thème de l'alimentation dans le quartier parce que souvent, quand même dans les éco-quartiers, on regarde l'isolation des maisons, donc le chauffage comme un des facteurs, et on regarde sur le transport où on peut diminuer l'empreinte écologique. Mais aujourd'hui, on sait, il y a des calculs, ça va entre 30 et 50% de l'empreinte écologique, elle est due à l'alimentation. Donc, si on fait vraiment le bilan global de comment on mange. Et donc, ça nous semblait intéressant de pouvoir amener ce thème simplement dans l'urbanisme ou dans un quartier qui va être construit comme Meyrin. Et là, c'est dans les premières réunions participatives de Meyrin, on a juste proposé de coordonner toutes les actions qui concernent l'alimentation. Et c'est parti un peu comme un virus. Tout à coup, les différentes coopératives, ils avaient tous envie de travailler aussi sur ce sujet. Et on a finalement, comme parallèlement, la Migros, elle a fait des difficultés dans le négoce sur l'espace supermarché prévu dans le quartier. Mais on a pu rentrer dans cette porte et dire, on prend. La difficulté, c'est qu'on n'a pas commencé avec un petit espace bon marché. On a commencé aux mêmes conditions que Migros. Donc, on a un supermarché cher à la base. On a fait ce défi. On n'a pas un petit magasin à côté d'un supermarché. On a pris le défi aussi de dire on joue vraiment le rôle du distributeur. Mais on ne veut pas être un modèle, mais plutôt, plutôt vendre une démarche. C'est vraiment ça, c'est pour nous la base, c'est qu'on le fait ensemble, que c'est évolutif et c'est pas un projet clé en main où les gens ils viennent acheter et puis ils achètent, ils sont sûrs que tout ce qui se trouve, c'est garanti. Hein, vous avez vu Leclerc, c'était chez Leclerc, hein. Le cher directeur, on n'aimerait pas se trouver dans une situation comme ça. Si vous venez contrôler, mais si vous avez d'autres idées, en supermarché paysan, on vous donne le dossier et vous en occupez, les rayons sont à vous. L'idée de notre supermarché, elle est vraiment là. On ne veut pas créer encore une chaîne en plus qui sera plus clean ou qui sera plus je ne sais pas quoi. On veut créer un supermarché qui nous appartient. Voilà, on continue. Donc la taille de 1000 habitants, disons 1000 logements, ça nous semblait bien, parce qu'on a besoin pour créer un petit supermarché comme ça, à peu près 1000 personnes. On a une forme de coopérative, on a choisi une forme de coopérative avec beaucoup de commissions qui, eux, sont au niveau de décisionnel, et c'est eux qui décident. On a décidé ça jusqu'à présent, que ce n'est pas le conseil administratif qui prend les décisions, mais que les commissions... Sur le sujet qu'ils travaillent, c'est eux qui décident. Et après, il peut toujours avoir les assemblées générales qui rediscutent si les décisions sont trop compliquées. Et puis, on a des commissions d'éthique, on a des commissions un peu pour tout. Pour le moment, c'est vraiment en train de devenir. C'est pas du tout fini, ça va ouvrir dans 2 ans. Les ateliers de transformation, c'est important pour nous. Hein, on y tient, c'est encore avant la dernière ligne. Et on tient que ces ateliers de transformation, quelque part, ils appartiennent au quartier. Parce que ce qu'on a remarqué, nous, si on livre de la farine à une boulanger, mais vous arrivez un matin, puis la boulangerie, mais elle a été vendue. Et ça se passe comme ça. Et les pas de porte, ils sont très importants. Un boulanger qui va mal, mais ils se vendent à un boulanger qui paye un peu mieux. Et c'est la même chose pour les bouchers, c'est la même chose pour l'électrique. Donc on avait envie que ces ateliers, au moins les lieux, et les installations de fonds, ils appartiennent au quartier. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais on y tient vraiment. Et qu'après, l'artisan, il est quelque part, il est gérant. Mais il est autonome, quoi. Il est gérant, il gère ça d'une manière tout seul. Il n'est pas employé, mais le lieu, quand même, il ne peut pas le vendre. Donc si ça ne marche pas, l'idée, c'est qu'il est en contact avec les producteurs, les consommateurs, et on réfléchit ensemble sur les rôles essentiels, originels, quoi, de chaque métier. Parce qu'aujourd'hui, le danger, c'est que vous avez un boucher qui vient au quartier, mais pour survivre, ils vendent les filets à Noël, et puis c'est tout. Mais nous, on veut vendre des carcasses avec un certain respect pour la bête, donc on veut toute la bête qui est vendue. Donc il faut absolument, il faut un lien avec les consommateurs, il faut un travail en profondeur. Et on aimerait que le boucher qui vienne, il sait défendre sa place dans la société. On peut être vegan individuellement, mais pas pour la société. Il y a un tiers de nos surfaces, c'est des herbes en Suisse, donc il faut bien en faire quelque chose. Si on fait du lait ou si on fait des vaches, mais à un moment donné, on mange la bête. Donc le boucher, il a un rôle important dans la société, dans la filière, dans toute la filière alimentaire. Donc c'est important que cette base, elle est quelque part, elle est présente dans le quartier. Pour nous, c'est ça qui est l'essentiel de son boulot. C'est aussi que le boulanger, il doit pouvoir faire du pain. Mais s'il veut faire du pain, il doit vivre de ça. S'il doit vendre du café pour faire du pain, quelque part, on est mal parti. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans cette situation-là. Si vous faites boulanger, il faut avoir un tirome. Donc on aimerait revenir un peu sur la base de ces métiers qui sont vraiment présents. C'est la même chose pour le lait, on aimerait vraiment du lait dans le quartier, donc du lait pasteurisé, pas homogénéisé. Donc on aimerait que l'artisan qui vienne, il a un rôle spécial à remplir, mais il fait partir de la filière entière, qui nous permet après de gagner une certaine indépendance. Vraiment, le consommateur, avec les transformateurs et les paysans, il peut décider dans quelle direction il veut aller. Voilà, on continue. La possibilité, disons, la chance, d'une chance comme ça pour les producteurs, c'est qu'ils peuvent partager les risques avec les consommateurs. C'est un peu le même système qu'on a dans l'agriculture contractuelle. Si vous savez que vous avez les clients, vous pouvez faire certaines productions, vous pouvez faire avec plus de main d'œuvre, le risque est quand même beaucoup moins grand, donc vous avez moins les couteaux à la gorge. Et puis surtout, vous êtes en contact quand même, vous pouvez causer l'économie. Aussi, nous, on pense que c'est un avantage économique. Si vous avez vu tant présent les deux derniers, vous avez 8 morts, 8 suicides l'année passée, donc seulement dans le canton de Vaud. Tous les paysans, toujours pareil, ils sont tout seuls devant leur feuille de calcul et ça ne joue pas. Et puis voilà, ils ont investi, ils n'arrivent pas à suivre et ils ne sont pas impliqués dans un système social où ils peuvent régler leurs problématiques de production. Voilà, après, bon, on continue. Alors voilà, ça c'est les buts principaux. Donc si on veut aller dans vraiment c'est le rôle de ce supermarché. Ça c'est le but, on discutera après. Dans quelle mesure on en va réussir? Si on arrive déjà, si on a l'ouverture, on a 30% de nos produits qui répondent à ces critères, on sera fiers. Hein, parce que c'est pas du tout évident de trouver aujourd'hui sur le marché ce qu'on cherche. Mais c'est aussi un but de ce supermarché, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est facile de dire les tomates, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça joue pas. Mais allez trouver d'autres. Hein, moi j'ai cherché, mais ils achètent les tomates à 10 centimes, mais ils font des boîtes, on ne sait pas d'où, peut-être ils les ont même moins chères. Mais nos tomates ici, c'est 3 francs le kilo, alors vous pouvez essayer de faire des boîtes. Et chaque fois que vous mangez une pizza, vous faites quoi? Vous avez des boîtes dessus. Donc c'est pas facile de trouver vraiment une équivalence si on ne veut pas payer beaucoup plus cher. Donc de chercher ça ensemble et de développer ça ne va pas se faire d'aujourd'hui à demain. mais il y a une chance là de communiquer au moins sur ces problématiques et de ne pas le faire à l'aveugle. Voilà. Donc, ce qu'on veut aussi, ce qui est important aussi, c'est peut-être cette, là mon dernière phrase, c'est on espère que les 1000 membres nous vont aussi faire en lien, nous vont faire les liens avec des réseaux ailleurs. Donc, on n'est pas du tout dans un système où on veut manger que nos produits. On est tout à fait d'accord de manger des oranges et tout ce que vous voulez. Mais on aimerait bien qu'on trouve pour chaque produit des partenaires qui signent un peu les mêmes chartes que nous. Donc, d'être dans des systèmes solidaires, mais si possible, le plus large possible. Et là, toujours ce qu'on a vu un peu, quoi, moi je pense qu'il y a une force là-dedans, ce qui est assez important, c'est de réfléchir que l'argent, elle sert pas seulement à acquérir des biens, mais elle sert quand même aussi de construire des systèmes économiques. Et si on donne du matin au soir l'argent à des entreprises, mais qui ne signent pas notre charte, c'est quelque part un peu gênant. Et si on sait aujourd'hui, c'est danger d'être récupéré, elle est immense, parce que toutes les grosses firmes aujourd'hui, ils investissent dans le futur, c'est la santé. C'est des boissons sans sucre, c'est les, tout, tout Nestlé, elle investit tout là-dedans, et on va avoir un rayon pour tous les produits possibles qui vous manquent, puis avoir pas de gluten, pas de lait, pas de tout, n'importe quelle maladie vous pourriez manger, il y aurait un rayon prêt à la Migros, et probablement même le rayon participatif. Ils vont trouver une combine pour le mettre, quoi, parce qu'ils ont toujours trouvé une combine pour l'écrire. Donc, voilà. C'est donc pas un modèle, hein, il n'y a rien qui est fait, mais c'est une utopie qui est construite dans un quartier bien réel. Le quartier là, les murs, ils commencent à monter, et on est parti pour le faire, on cherche des membres, on est 100 maintenant, donc voilà. Vous pouvez vous inscrire, ça coûte 100 francs, c'est la part sociale. Et après, on vous demande 2 heures de participation par mois. Jusqu'à présent, ce n'est pas défini, qu'est-ce que c'est. Donc vous pouvez inventer vous-même votre participation. Il y a des groupes de travail, vous pouvez inventer une, vous dire moi je vais travailler là-dessus, moi je vais amener des films, moi je vais amener tout est possible. C'est pas du tout, si on est vraiment, on doit chercher d'ici 2 ans, 1000 personnes qui font 2 heures par mois pour pas seulement faire du ménage, quoi. Pour qu'on a vraiment aussi des gens qui peuvent faire autre chose que tenir la caisse et puis remplir les rayons, mais aussi écrire des journaux et puis d'aller visiter des partenaires, de faire les vacances aux beaux endroits où ils trouvent des liens, les amener. Voilà, c'est une utopie qui va. Voilà, nous on est complètement. On est sûr que ça va se passer. Entre temps, il y en a d'autres. Hein. J'étais en Bretagne à Nantes, ils sont en train de créer une. Et ils sont partis très fort aussi. Ils ont plein de gens, ils ont plein de membres déjà. Ils n'ont pas encore de magasin, mais à Paris, mais il y a la Louvre. Il y a quand même des. Ouais, il y a des exemples où je pense que le principe de réfléchir où on met ses sous, ça peut quand même provoquer une certaine liberté.
Okay. Merci voilà. Beaucoup, Reto.
Retrouve les podcasts des émissions sur Libradio, www.libradio.org.